une cigarette en prenant le temps de l'allumer. Elle inspire profondément la fumée. Elle attend, se resserre un verre de vin et en boit une gorgée. La sonnerie reprend de plus belle. Mais Sibyl ne bouge pas. Elle se concentre, rejette lentement la fumée, la regarde monter vers le plafond et s'étaler, se répandre, se diluer au-dessus d'un luminaire en papier de riz qu'elle a acheté alors qu'il ne lui plaisait pas. Samuel sort de sa chambre, étonné. Tu n'as pas entendu ? Si, elle arrive. Elle ne le dit pas, se contente de hocher la tête lentement, calmement. Elle repose son verre, laisse tomber la cigarette dans le cendrier. Car lorsqu'elle voit que Samuel veut ouvrir la porte, elle se précipite. Elle ne veut pas que ce soit lui qui aille ouvrir, ni qu'il se trouve seul avec son père. Elle redoute cette guerre toujours à vif entre eux, dont Samuel a été l'enjeu et l'instrument. Le père jouant le fils contre la mère, le fils jouant le père contre elle, et parfois s'alliant à elle, quand il s'agissait de se liguer contre le père, même si ça avait été plus rare. Alors ce soir, ce sera quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Elle fonce vers l'entrée, allume dans le couloir et appuie sur l'interphone. Elle attend. Elle demande à Samuel de se tenir prêt à passer à table. Et bientôt, elle entend des pas dans l'escalier, la voix de Benoît qui demande en hurlant « Quel étage ?» Elle répond « Troisième !» sans s'entendre crier. Entre eux, même les premiers échanges se font en gueulant. Pourtant, elle débarque avec des fleurs. Incongru, ridicule. Mais ça produit son effet. Sibyl se retrouve avec un énorme bouquet de tournesol dans les bras. De gros soleils jaunes d'or qui lui tombent sur la poitrine et pèsent un âne mort, la laisse sans voix, le temps que Benoît entre dans l'appartement, profitant de l'effet produit, jouant déjà son jeu du père engagé, de l'ancien mari qui n'en veut pas à sa femme. Bon, elle a cru qu'elle pourrait faire sa vie sans lui, ça arrive, tout le monde peut se tromper. Sa femme en particulier, enfin, son ex-femme. Il est content de la revoir, ça l'amuse. Elle a toujours son regard haineux. Non, décidément. Elle ne lui a rien pardonné. Elle ne veut rien pardonner. Et, pourtant, il aurait parié qu'elle finirait par se laisser adoucir, qu'il ne resterait au bout de quelques mois qu'un mauvais souvenir de plus entre eux. Mais non. Après tout, cette histoire idiote qui avait foutu le feu aux poudres, qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? Il n'avait jamais compris comment ça l'avait à ce point scandalisé. Et il n'aurait jamais cru que Sibyl, qui avait fermé les yeux sur tellement d'histoires, sur tant de tromperies, de petits mensonges, et pas seulement liés aux femmes, mais parfois à l'argent, juste parce qu'il était égoïste et qu'il le savait, demanderait le divorce à cause de cette histoire. Et elle avait tenu bon, Sibyl. Elle avait exigé le divorce et l'avait obtenu. Elle avait exigé la garde de son fils et l'avait obtenu. Elle avait exigé une pension pour son fils et en partie pour elle, et elle l'avait obtenu. Elle avait voulu quitter Paris, s'installer à Bordeaux, parce qu'elle aimait cette ville, et ça aussi, elle l'avait obtenu. Il aime voir Sibyl comme hypnotisée avec ses tournesols dans les bras. Les fleurs, le jaune d'or agressif prend toute la place. Les fleurs occupent toute l'entrée, et Sibyl se laisse embrasser comme on embrasse la cousine ou la vieille tante de province qu'on visite une fois l'an. Elle ne dit rien. Peut-être entre, et c'est tout. Elle le regarde, l'observe. Non, il n'a pas changé. Son caban miteux, son bonnet rouge façon commandant Cousteau et son crâne dégarni. Ses cheveux hirsutes sur les côtés, ses yeux un peu globuleux et ronds, son visage toujours légèrement hagard, surpris en flagrant délit d'on ne sait quoi, surpris comme au saut du lit, et la cinquantaine d'un vieil enfant qui pourrait avoir l'air doux parce qu'il a toujours au coin des lèvres, outre la stupeur et l'étonnement enfantin qui sont sa marque, quelque chose d'autre, une sorte de contentement, de vivacité et d'intelligence. Mais parfois ça se transforme en un rire pinçant, une légère grimace menaçante, inquiétante, comme chez les jouisseurs qui ont dans les gestes la simplicité, la rapidité et l'acuité du prédateur. Mais sa voix se veut câline et tendre. Sa voix que Sibyl connaît si bien quand elle se roule dans sa pseudo-naïveté pour demander pardon. Quand elle cherche à prendre l'avantage en jouant l'ignorance, la fausse modestie, le pauvre imbécile qui ne comprend pas pourquoi on lui en veut et ce qu'on peut bien lui reprocher. Et lui, en entrant, il est si heureux de venir ici alors que Sibyl lui avait promis qu'il n'y entrerait jamais. Heureux parce que son message du matin avait fait d'elle sa débitrice. Et maintenant, il entre dans l'appartement comme quelqu'un qui a déjà gagné un match, ou plutôt le match retour. Il a la sensation qu'il tient une sorte de revanche. Il retrouve la même femme,